Alors les amis, on revient à Boker Tov. Oui, oui, il paraît que les femmes font la grasse mat ce matin. On peut rester ici pour le deuxième cours. On n'est pas obligé d'aller en cuisine.
On a déchauffé ici.
Voilà.
On a une fenêtre de lumière.
Mais le problème, c'est quoi? Je vais vous dire le problème. C'est que quand on fait le deuxième cours ici, on ne nous donne pas de gâteau. C'est un problème. Mais bon.
Bien qui c'est d'attendre, même avec le déchet.
Tav. Il y a les amis, on revient dans notre étude du livre de Orot, du Rav Avraham Yitzchak HaKohen Kouk. On est dans la partie Israël ou Triato, chapitre 27, page Mem Gimel. Page Mem Gimel. C'est bon? Chapitre 27, Perek Kaf Zayin, page Mem Gimel. Yes? Yofi. C'est parti. Shichechat Ashvatim le Yichusam hi achana le achdut ha'uma. Ouh là là. Là, le Rav Kouk commence tout de suite avec une phrase bombe. Shichechat Ashvatim le Yichusam. Alors, l'oubli. Le fait qu'on a oublié de quelle tribu on venait. Alors évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Parce que nous avons ici un représentant de la tribu de Lévi.
Des Kohanim.
Ah, je sais pas, toi t'es Kohen. Non, non, on a un Lévi ici. Ouais. On a, mais il n'y a pas d'autre Lévi et de Kohanim ici.
Il est parti.
Il est parti. Bon. Donc, ma question c'est là. Toi, tu sais de quelle tribu tu viens? Non, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Et toi, tu sais? Je sais pas. Bah, j'en sais rien, moi. T'es un pays, ça veut pas dire de quelle tribu, des 12 tribus, tu viens. Oui, mais, ça, mais c'est pas ça, on s'en fiche. Moi, je veux savoir de laquelle des 12 tribus tu viens.
Ah, bah, moi, c'est facile.
Toi, c'est facile, mais les autres. Alors, moi, je vais vous dire, mon fils a décrété que notre famille, nous étions de la tribu de Zevouloun. Alors, pourquoi il a décrété ça? Parce qu'il a vu que le Zvouloun, c'était les Chof Yamim Mishkon. Pas seulement il travaille, mais il fait du commerce sur la mer. Le Chof Yamim. Or, il a appris qu'on s'appelle Fison, qu'à l'origine en Pologne, c'était Fison.
Il travaille l'or comme ton père.
Hein?
Il travaille l'or comme ton père.
Non, mais non, parce qu'il dit... Il dit comme Fison, à l'origine en Pologne, c'était fish and zone, ça veut dire poisson et fils. Donc ça veut dire qu'on devait avoir des ancêtres pêcheurs ou alors marchands de poissons. Donc il s'est dit, boum, c'est Zvouloun. Ça?
Pourquoi pas?
C'est un raccourci.
Oh, ça ne me dérange pas, hein, Zvouloun, il est pas mal. Hein. Pourquoi pas?
Ils sont tous très bien.
Mais c'est ça. Le fait est qu'on ne sait plus de quelle tribu on vient. Si on y réfléchit deux petites secondes, c'est quand même énorme. On a oublié notre lignée familiale. Eh bien, nous dit le Rav Kouk.
Il y en a qui ont remarqué, non, il y en a qui savent quand même. Enfin,
c'est extrêmement rare.
Oui, peut-être rare, mais enfin bon.
Je veux dire, concrètement, à part les gens qui sont Cohen ou qui sont Lévi,
oui, non, mais...
il y a des gens de la famille Peretz, tout ça, ils te disent, nous, ça vient de David, nous, Shoin. Mais en vrai, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on commence à essayer de retrouver les tribus perdues. Donc on a les juifs d'Éthiopie qui se revendiquent de la tribu de Dan, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, Yicholiot? On a les Bnei Menaché qui viennent d'Extrême-Orient, mais Nachon, Lo Nachon, comment on est sûr, on n'est pas sûr, Lo Pashut. Là par exemple, j'ai un ami qui va venir chez moi Shabbat, qui est le nouveau consul d'Israël de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Ah oui, ah oui, oui, oui,
pas mal. Papouasie, Nouvelle-Guinée, à côté de l'Australie. Et là, il est parti là-bas, il revient vendredi, et il m'a dit, le président là-bas, il m'a dit, dans ton programme, sache qu'il y a une journée, on va prendre l'hélicoptère, il faut que je t'aille te montrer, il y a chez nous une tribu qui se dit être une tribu de chez vous.
Pourquoi?
Pourquoi? Bon, alors, comment ils sont arrivés là-bas?
C'est un Européen, je crois, c'est ça. Hein.
Quoi?
De ne pas voter une nouvelle idée.
Oui, oui, c'est un Français.
Oui, oui, j'ai entendu parler.
Mais Kitsour, si c'est vrai qu'il y a une tribu perdue là-bas, comment ils sont arrivés là-bas? Mais le fait est qu'on a oublié notre relation à nos tribus. Alors que, quand tu regardes dans le Tanakh, jusqu'à la royauté de David, on ne marche que par tribu. Et encore, ça va durer que 80 ans qu'on va marcher en tant qu'âme Israël. Puisque après la royauté de Shlomo, il va avoir le schisme entre Rechavam ben Shlomo et Yerobam ben Nevat. Et rebelote, on va repartir en mode tribu. Donc si vous voulez, dans le Tanakh, on est principalement un peuple tribal. Où il n'y a pas vraiment de contact entre les uns et les autres.
De mariage entre les...
Alors, il y avait sûrement... au début, c'était interdit. Voilà. Mais ça a été interdit que pendant 14 ans. Après, ça a été levé, l'interdiction de Yoshua. Mais est-ce que vraiment les gens se mariaient entre tribus? C'est pas évident. Il y a fort à penser que non, Dafka.
On n'a pas d'infos sur ça.
On n'a pas d'infos sur ça. On n'a pas... Si, on peut glaner des informations parce que tout d'un coup, tu vois des gens habiter à certains endroits... alors qu'ils sont appelés venant d'une tribu qui n'est pas censée être à cet endroit-là. Donc c'est possible qu'il y ait eu, oui, des mariages. Mais il n'empêche que ça reste quand même très marginal. Donc on ne vivait pas en tant qu'unité de peuple. Alors il y a eu pendant Shlomo, pendant David et Shlomo, oui. Mais c'est tout.
Alors, donc je pense que c'est la colonne alors qui a fait dissoudre
Les tribus. Exactement. Bien sûr. Le fait qu'on soit parti en exil a fait disparaître notre relation au Shvatim. Il nous dit, le Rav Kook, c'est bien.
Il y a quelque chose de bien.
Il y a quelque chose de très bien. Parce que imagine-toi, si on était resté, Bagalout, fidèle à notre appartenance de tribu, ben ce qui se serait passé au final, c'est qu'il y aurait eu 12 peuples juifs. Il n'y aurait pas eu un peuple juif. Et au final, on se serait complètement détachés les uns des autres. Et il y aurait eu un peuple Zvulouni, un peuple Hachéri, un peuple Dani, un peuple truc. Et on n'aurait jamais pu créer, dans la conscience collective, l'identité d'Israël. D'accord ? Donc nous dit le Rav Kook, « Shichechat ha-shvatim le-yichusam, hi achana le-achdut ha-uma. » C'est ça qui a... Le fait qu'on oublie notre relation aux tribus, c'est ça qui a permis l'unité du peuple. על ידי הזיכרון של חלוק השבטים הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. C'est combien de dire? Si on avait gardé notre sentiment d'appartenance à Naphtali, eh ben, au final, la galoute aurait eu raison du peuple juif. Regarde, ne serait-ce que là, tu m'as dit toi-même, je sais que ma famille elle vient du Maroc. Toi, tu viens de la Haute-Tunisie.
Non, de
Comment ça? Je vous ai jamais entendu dire, moi, je suis de France. Tu m'as dit,
non,
je suis de
France, Tunisie.
Moi, je suis de Pologne, tu vois, j'ai jamais vécu en Pologne. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, là, le fait qu'on soit tous, moi, je suis polonais, moi, je suis tunisien, moi, je suis truc, moi, je suis machin, alors que c'est pas du tout nos tribus. Mais on a vécu un petit moment là-bas, alors on s'est imprégné de l'endroit. Imagine ce qui se serait passé si on était resté fidèle à notre tribu. On n'aurait pas eu du tout de contact avec les autres. Comme aujourd'hui, tu vas dire qu'un juif tunisien, c'est quand même très très loin d'un juif d'Allemagne. Dans la pratique, dans la façon de réfléchir, et dans la façon aussi d'être en proximité l'un et l'autre. Je vous rappelle que c'est un chidouche, ce qui se passe là maintenant. Là, ce qui se passe dans cette salle, c'est un très grand chidouche.
Oui.
C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette salle? D'abord qu'on a réuni des Marocains et des Tunisiens. Déjà, ça, c'est un chidouche. Ensuite, qu'il y a un Ashkenaz polonais qui donne un cours à des Sfaradim. C'est un autre chidouche. Et que monsieur qui est en train de faire cette fila, je ne sais pas d'où il vient, mais il n'a pas l'air de venir du Maroc occidental.
Plenazi, Manitou, il venait de Coran.
D'accord. Manitou, il venait d'Algérie et il a réussi à avoir une influence au-delà de l'Algérie.
Mais il s'appelait Ashkenazi.
Oui, oui, oui. Bah, il s'appelait Ashkenazi parce que ses ancêtres, ils venaient d'Ashkenaz. Ça, c'est normal, ça, c'est pas étonnant. Mais disons que le fait qu'aujourd'hui, on puisse s'asseoir tous ensemble dans la même salle, qu'on puisse étudier la Torah ensemble, qu'on puisse prier ensemble, ça n'existait pas avant. Pas chaud, ça n'existait pas. Sans parler du fait que chez les Ashkenazim, et peut-être encore dans certaines factions encore aujourd'hui, malheureusement, à l'époque, ils voyaient les Sfaradim comme étant des Juifs de deuxième division. Des moitiés de Juifs. Oh, pas jusqu'à présent.
Il y a
malheureusement encore quelques endroits.
Ça existe en Tunisie aussi. Hein.
Ouais.
Entre les Livournais et les. Ils appelaient les donc, du coup, ils appelaient les indigènes. Ils ne se mariaient pas ensemble. Ils avaient deux grands rabbins et deux cimetières différents.
Tu vois ?
C'est
pas mal. Moi, je sais que mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, donc, ils sont arrivés à Metz. D'accord ? Ils sont arrivés en France. Et à l'époque, en France, il y avait des Juifs ashkénazes. Et eux, ils venaient de Pologne. Mais ils me racontent. Mais tu rigoles, quoi ? C'était valait mieux se marier avec une Goya plutôt qu'avec un Juif polonais. Attends. J'exagère presque pas. Donc, ça veut dire, si on a réussi à créer cette séparation qui n'a rien à voir avec nous, en fait, qui est simplement le pays dans lequel on a vécu, t'imagines ce qui se serait passé si on était resté fidèle à nos tribus. Oui.
Je me rappelle à Strasbourg, parce que quand les Sfaradim sont arrivés d'Algérie surtout et tout ça, alors j'ai écouté, on a mal reçu les Polonais. Alors maintenant, il va falloir se conduire autrement vis-à-vis des Sfaradim.
Nous, et ça a marché.
Je me rappelle. Hein.
Et ça a marché.
Maintenant, c'est
eux
qui ont pris
la majorité là-bas. T'as vu ? Regarde, tu parles de Strasbourg, le Strasbourgeois arrive. Tu vois ? T'as entendu, ça a sifflé. Ça a sifflé.
Ouais.
Bekitso, donc, Shechechat HaShvatim Leichusam Yachana Lachdut HaOuma Al-Yedé HaZikaron Shel Chilouk HaShvatim Haïta HaGalout Goremet Shekol Shevet Yechulak Veyipared Legamre Miklalout HaOuma Veheres HaNochriyut היה חודר בחלקים המיוחדים והבודדים. מה זה הרס הנוחיות? Si tu restes uniquement נפתלי, או זבולוני, או אשרי, ça va pas être suffisamment fort pour te garder aussi de la נוחיות, de la goyout. Et donc ça serait rentré chez nous. אמנם, על ידי השכחה הזאת, של ההתפרטות נתרבה הבלבול והערבוב. לא רק התפילות המיוחדות והראויות לכל שבט ושבט. הנה, יופי. On est page même guimel. On est à peu près, voilà, on est là. Troisième ligne. Donc, je reprends la phrase. Omnam, troisième ligne, de la page même guimel, chapitre Kav Zayin. D'accord ? Omnam, al yede ha-shichecha hazot, shel ha-itpartut, on a oublié donc la spécificité de chaque tribu. Nidraba abilboul veirbouv. C'est mélangé. C'est bien ou c'est pas bien?
C'est bien.
L'orakat filot, ameyuchadot, veareouyot, lechol shevet veshevet. Bifnaatmo. Betikun haolam nidbalbelu. Kin kol erche achayim, apenimim vachitsonim, kol tzivyonem shel ha'argashot. הלימודים המנהגים וההדרכות שכל אחד מהם במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים מתאים עם הלך נפש השבטית ובונה את עולמו והוא לפעמים מאחר וסותר בניין בהיותו מלופף בסדרים שאינם מעניינו. Alors on a dit dans un premier temps que c'était bien. On a oublié notre relation à chaque tribu, ça nous a permis de créer l'unité du peuple juif. Il dit dans la foule qu'il y a un problème. Ok, on est tous ensemble. Ok, c'est très bien, ça a créé le socle pour le peuple juif. Mais, on a complètement oublié, et on s'est mélangé complètement, dans ce qu'on devait apporter au monde, à la correction du monde, à Tikkun HaOlam, à Shrina, en tant que tribu spécifique. Parce que les amis, rappelez-vous toujours cette chose très importante.
On l'a mis en tant que peuple.
Oui, mais ça ne suffit pas.
On l'a mis dans le peuple l'a mis dans le monde.
Ben non, justement pas. Parce que le peuple, il a tendance justement à oublier sa spécificité de chacun, et on est un gros bloc, Am Israël. C'est très bien d'avoir ce bloc Am Israël, mais quelque part tu oublies la spécificité. Je te donne un exemple. À l'armée, il y a un rabbin qui s'appelait le Rav Shlomo Gorel, Zatzukal, qui a voulu faire un moussard de l'armée pour la tfila. Que tous les soldats aient pris le même, dans le même bouquin, le même moussard. Il a appelé ça moussard achid. Le noussar unique. Sauf qu'en fait, c'était quoi? C'était le noussar polonais. Qui était le sien. Il a dit, tout le monde va prier pareil, comme moi. Alors il a rajouté, vite fait, une fila ou deux des Sfaradim. Mais Bégadol, ceux qui ont pris ça, ils ont rien.
Sfarad,
exactement. Donc ça, après les gens, ils oublient. Aujourd'hui, tu as un truc qui s'appelle noussar Yerushalmi. En fait, ça ne veut rien dire, nous arrivons au Chalmi. Ça ne veut rien dire. C'est un mix de plein de gens, de plein de choses. Alors, ok, ça permet à plein de gens de prier ensemble. Mais tu as oublié la spécificité de chacun. Et c'est un problème. Rappelez-vous pourquoi la paracha de Nassau est la plus longue de toute la Torah. Lama.
Mais quand il faut les
corbanotes.
Et pourtant, c'est pour ça que c'est la plus longue. C'est parce qu'on relit 12 fois les mêmes corbanotes. C'est les mêmes. Ils ont amené la même aval, ils l'ont amené différemment chacun, bien que ce soit le même korban. La façon dont tu l'amènes quand tu es Asher, c'est pas la même quand tu es Naftali. Et donc nous on a perdu ça.
Oui. J'ai une question. La prière telle qu'elle a été institutionnalisée par le sage, c'est avant qu'on soit, chaque tribu soit.
Non, c'est après.
Après.
Bien sûr. La tfila, tu parles de la Hamida. La Hamida a été instituée par le Cheikh Knesset HaGedola, donc dans les années moins 300, plus ou moins, moins 350, moins 360, on a déjà perdu les 10 tribus du Nord. Ça fait presque 400 ans qu'on a perdu les tribus du Nord. On est très loin de ça. D'accord ?
Et ça, quand on était en Algérie, en Afrique du Nord, chacun avait son moussard.
Oui.
Donc, le problème, il s'est arrivé, il s'est avéré quand on est revenu ici sur la terre.
Alors, tu as raison. Chacun est là. Bien sûr, tu as raison. Quand on était chacun dans notre pays, en Afrique, en Pologne, chacun avait son moussard. Mais, c'était toujours pas la relation à ta tribu. Tu sais pas de quelle tribu tu viens, des 12 tribus. C'est ça le problème. On a perdu notre relation à la tribu.
Quand on est arrivé ici,
oui.
C'est sûr, je comprends qu'on a besoin d'un moussard unique à Am Israël. C'est pour le peuple d'Israël.
Mais le peuple d'Israël,
les
Tunisiens, c'est peut-être fini. Mais les 12 tribus, elles ne sont pas finies. Les 12 tribus.
Ah, on n'est pas encore dans les tribus.
Mais c'est ça le problème, c'est de ça qu'on parle. Ah. C'est ça le problème. C'est qu'on a oublié, et donc on ne peut pas apporter la pierre de Zvouloun aujourd'hui.
Comment
ça peut y retourner? Celui que vous voulez. Comment on peut y retourner? Ah ben ça dépend pas que de toi là.
Wow.
Non, ça veut dire c'est... Alors voilà, c'est un des boulots du Mashiach. Il y a une machloket Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Est-ce que Atidim, Aeser, Ashvatim, Lachzor, est-ce qu'ils vont revenir dans le peuple juif ou pas? La vie de Rabbi Akiva, c'est qu'ils vont revenir en tant que guérim. La malo. Maintenant, il faut savoir que historiquement parlant, il y a des membres d'Aeser et Ashvatim qui ont fui à Jérusalem avant la destruction du royaume du Nord. Donc il y a peut-être parmi nous des gens qui sont, mais est-ce qu'ils retrouvent ça? Donc comment ça va revenir? Le Yoder. Mais si on dit que c'est vrai cette histoire de Chevet Dan, alors pourquoi est-ce qu'on ne retrouverait pas une autre tribu qui se revendique, qui a des textes qui ont 2000 ans, qui les rattachent à, je sais pas moi, Issachar? Ah malo, on verra. Oui?
Non, c'était pas par rapport à ça, par rapport au bain du Machiav, c'est vraiment, on n'en revient pas. Ma question près de l'autre, c'est à partir de quand on a perdu la trace des Shvatim?
C'est-à-dire, en l'an moins 721, il y a eu Khurban Mamlekhet Hatzafot. la destruction du royaume du Nord par Sanchériv, Melech Ashur. Et à partir de là, on a perdu les 10 tribus du Nord. Zéro.
Les 10 tribus étaient lesquelles
du Nord ? C'était le royaume d'Israël. Quand il y a eu le schisme entre Yehuda et Israël, et ben 10 tribus étaient dans le royaume d'Israël. Une fois que ce royaume a été détruit par Sanchériv, zéo, finito la comédie.
Mais à quoi ça sert de parler de tribus maintenant ?
Oh !
Puisque c'est le royaume d'Israël sur sa terre. C'est fini, le Péroud.
Alors, justement, c'est pas une question de Péroud, c'est une question. Il dit à quoi ça sert de ramener la dimension de tribu. Maintenant, ça y est, on est à Israël sur notre terre. Alors, je reprends la troisième ligne, parce que c'est la phrase qui nous intéresse, c'est exactement ça. Omnam, aliede, ashichechaz, parce qu'on a oublié notre relation à chaque tribu, shelait partout, nitraba, abilboul, vaherbou. Ce qui s'est mis à la place, c'est le bilboul et le hirbou. On s'est mélangé et confus. L'orak atfilot ameyuchadot. Mais oui, parce que la tfila dans Zvulouni, c'est pas la même qu'un hachéri. La façon que j'ai de dévoiler Dieu par ma tfila, c'est pas la même. On a des intonations différentes, des relations personnelles différentes, parce qu'on fait des choses différentes. Le mec qui est dans les champs, parce qu'il habite dans la tribu de Asher, et que Me'asher Shmena Lachmo, que c'est les terres les plus fertiles d'Israël, c'est évident que son rapport à la tefila n'est pas le même que celui qui est Zvouloun, qui est tout le temps en voyage à l'étranger. C'est pas la même tefila, c'est pas la même relation avec Dieu. Ok, vous comprenez ? Donc on dit bilboul ki im kol erchei achayim etra lo rak atfilot miyuchadot ve'areuyot lechol shevet ve'shevet bifnei atmo betikun ha'olam nitbalbelu. On a besoin de chaque native pour le taken olam bemalchut shaddai. Et là, bilboul.
Mais ça lui donne plus de force quand on est uni.
Mais ça veut pas dire qu'il faut être désuni. C'est ça tout le truc. C'est-à-dire que ce que vient de dire le Rav Kook, c'est qu'on a besoin évidemment de la notion de l'Amisraël. C'est pour ça qu'il a commencé en disant que le fait qu'on a oublié, ça a permis la construction du peuple. C'est très bien. Mais il dit, mais d'accord, maintenant qu'on a l'unité du klal, n'oublie pas qu'il y a aussi la tribu. Ça a son rôle, la tribu.
Oui, mais c'est ça qui amène au même. Parce qu'on veut prendre deux chemins différents en même temps. Ça ne marche pas, ça. Où on est ?
Mais si ça marche, regarde, la preuve, c'est que on est algérien. Mais
regarde ce qui se passe actuellement en Israël.
Nous.
Un gouvernement, il est aidé, et l'autre, il est contre.
Non, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Le fait qu'aujourd'hui, il y a...
Parce qu'ils portent des idées.
Il n'y a pas de problème de porter des idées différentes. Le fait... C'est, aujourd'hui, le problème qu'il y a au niveau politique dans le gouvernement, c'est Stam, parce qu'il y a des gens qui sont très déçus de ne pas avoir gagné, alors ils attaquent. Bon, ça, c'est Katan. Maintenant, aujourd'hui, tu as des gens qui sont Ashkenazim et Sfaradim, et pourtant, les deux se revendiquent comme Israël. Donc tu vois qu'on peut être âme et dedans avoir une spécificité.
Oui, mais il ne faut pas poursuivre. Moi, je crois qu'il faut plus aller vers l'unité que de poursuivre.
Il faut les deux. Il faut les deux.
Ça met le bibou, ça. Le bibou, c'est... Tu ne peux pas marcher sur deux chemins à la fois. Ou ça.
Pour ce qui est de la relation à l'international, si tu veux, ça doit être Am Israël. Mais à l'intérieur de Am Israël, il y a plusieurs couleurs. C'est toute la différence entre l'unité et l'unicité. On n'est pas tous pareils. Pas mais on est tous ensemble.
Je suis pas assez intelligent pour
comprendre. Mais si.
Mais c'est ce que je ressens, sans être intelligent, ce que je ressens, c'est que à partir du moment où le peuple s'est réuni déjà avec beaucoup de difficultés tout au long de l'histoire, et même maintenant on n'a pas fini avec cette épine dans le pied.
Oui, mais quoi ? D'accord, t'as raison, on s'est réuni, mais tu veux annuler maintenant la spécificité de chacun ?
Que ça reste, tu peux pas te réclamer à Jérusalem. On peut le faire, puisqu'il y a le Marocain d'un côté.
T'imagines si on décide que je vais dans ton sens. Dans deux secondes, il va dire non. Dans deux secondes, il va dire non, ça, c'est pas possible. Vous êtes prêts ? Comptez une minute, il va dire non, ça, c'est pas possible. Je vais dans ton sens. Et je dis, allez, on annule les spécificités, on se concentre sur l'unité. Alors, tu es d'accord avec moi qu'il faut, pour ça, trouver des compromis, parce que des fois, il y a des choses qu'il faut annuler, machin. Très bien. Eh bien, il se trouve qu'il y a plein de juifs américains qui sont en Israël. Or, chez les Américains, il y en a plein qui sont allergiques aux cacahuètes. On décide de faire une loi à la Knesset, on interdit les cacahuètes pour le kiddouche de Shabbat avec la nisette.
Ah, moi, de toute façon, je ne suis pas américain.
Tu vois, tu vois, là, tout de suite, il n'est plus d'accord. Il n'est plus, plus d'accord. Non, mais tu comprends, chacun, il apporte quelque chose. C'est fondamental.
Même en France actuellement, avec les régions. L'Alsace, c'est la même chose,
c'est les gens qui ont des spécificités. Mais c'est très bien que l'Alsace et la Bretagne soient pas la même chose.
J'apporte
la choucroute.
La quiche.
Mais moi j'apporte les cacahuètes. Moi j'apporte les cacahuètes. Celui qui veut les manger, il les mange.
C'est ça. Non, mais c'est très chaud, vous comprenez. Maintenant, dans ma synagogue, n'en déplaise à certains, on essaye de faire en sorte qu'on tienne bon, qu'il n'y a pas de noussa. Il n'y a pas de rite. C'est la synagogue, elle n'est ni polonaise, ni ashkénaze. Dès que c'est Joël qui monte, il fait en ashkénaze. Dès que c'est moi qui monte, eh ben, je fais la tuila en polonais. En polonais. Et dès que c'est un sfarad qui monte, il fait en sfarad.
Comment que ça se passe? Il y a des sfarim. Alors, il monte, il y a les sfarad. Tous les livres, tous les
trucs.
Parce que dans les faits, le rov, il est ashkénaze, c'est
demain matin. Le rov, dans la fille, il est sfarad.
Peut-être, mais attends, peut-être, tu as raison, peut-être que ça va être le cas. Agave, il s'est passé un peu l'inverse. Fut un temps où dans notre synagogue, il y avait plus ou moins moite-moite. Mais à un moment donné, quand les Ashkenazim sont devenus de plus en plus présents et que donc ils ont pris de plus en plus de tfilot, tu as vu qu'il y a plein de Sfaradim qui sont partis.
Mais c'est logique.
Alors, c'est logique, mais c'est pas bien. Il faut être capable de c'est pas la fin du monde si pendant une fila le chazan il est sfarad et toi tu l'es pas. L'honorable, au caraclou.
À Strasbourg ils font comme ça chez mon fils.
Mais non, toi tu continues à transmettre à ton fils ton rite.
Mais c'est bizarre. Mon fils il va dans d'autres choses.
C'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Si ça change et qu'il peut y avoir et ça et ça et ça, donc il se sent pas dépourvu de son rite. T'as raison, si tu me dis c'est un endroit où il n'y a que.
Donc,
l'inverse.
Pour ça, je comprends que les Sfaradim, pour qui ils veulent que le Rov y soit.
Ah, bah oui, mais c'est toujours comme ça. Mais ouais. Je suis d'accord. Mais on est en train, encore une fois, de montrer qu'on ne peut pas être et spécifique et ensemble. Mais c'est Chavay. C'est Chavay. Toi, tu viens d'un mariage mixte. Donc, quelque part, c'est comme ça que ça marche. Hein. Comment on a réussi à faire garder les deux et à être ensemble quand même? C'est quand on se marie. Pas forcément dans son rite. Quand un Ashkenaz se marie avec une séfarade, ça montre que c'est possible. Il va y avoir et du couscous et
du figuel. C'est en France d'une façon.
Hein?
C'est ce qui s'est passé en France.
D'accord.
Actuellement, il y a plus de. Au moment où je suis parisien, beaucoup plus de séfarades que d'Ashkenaz.
Tout à fait.
Le rite, il devient séfarade.
Oui.
Oui, mais ça, c'est. Oui.
Je suis en train de penser quand on était en Égypte.
Oh!
Il n'y avait pas de les 12 tribus.
Mais bien sûr que si.
Il y avait les 12 tribus, mais ils n'étaient pas considérés comme 12 tribus. C'était Abraham, Israël, esclaves en Égypte.
Ah ouais, mais non, mon ami. Ah, mais non.
Ils sont sortis, ils ne sont pas sortis 12 tribus.
Alors,
ils sont sortis 600 000.
Je me permets d'être en désaccord avec toi. Alors, je me permets d'être en désaccord avec toi pour plusieurs raisons.
Quand ils se déplaçaient, t'étais pas tribu.
D'abord,
quand on est sorti à une place donnée.
Quand ils sont rentrés dans le pays, on l'a payé.
La
distribution du pays, elle a été
faite sur un sorti. Non, quand on est sorti d'Égypte, Mahané Israël, il avançait par tribu.
Oui.
Et
les Romains, ils ont copié sur ça.
Quand on est parti d'Égypte, on était par tribu. Quand on a traversé la mer rouge, qui n'était pas rouge, on était avec 12 tunnels. Chacun, il est passé par sa tribu. Quand on était en Égypte, il y avait des différences parmi les tribus. Par exemple, il y avait la tribu de Réhouven, Shimon et Lévi, et les autres.
Lévi n'a jamais été esclave.
Voilà, et nous on dit ça parce que c'était des tzadikim et ils étudiaient la Torah. Moi j'aimerais bien te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu, deux secondes, en Israël, les machlokot qu'il y a par rapport au, au monde charedi qui ne va pas à l'armée. T'as déjà vu des machlokot comme ça? Ça existe? Il y a des gens qui disent c'est pas juste que mes enfants ils aillent à l'armée et toi tu restes à la yeshiva. Alors je rentre pas dans le débat est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Mais tu peux comprendre le mec qui a envoyé ses quatre enfants à l'armée, il y en a un qui n'est pas revenu, Chasbe Shalom,
ben oui.
Et qui dit ah mais eux ils sont à la yeshiva de la journée, c'est bien gentil. Ouais. Est-ce que tu peux comprendre l'attention?
Absolument.
Bien sûr qu'on peut comprendre l'attention. Maintenant viens, on l'a fait à l'envers. Ça fait je sais pas combien d'années que moi, mon père, mon grand-père, on se prend des coups de fouet tous les jours pour construire à Remiskenot les paro pitom veramses. Et les Lévi'im, les Tzadikim, ils étudient la Torah. Tu penses qu'ils étaient copains?
Ah, mais ça, c'était la perversité de Paro d'avoir fait ça. Les Lévi'im, ils devaient aller faire travailler.
Pour... Et tu crois que c'est les Lévi'im qui. C'est Paro qui a fait ça? Alors, mes amis, je vais vous apprendre un grand chidouche qui vient du Meshech Chorma. Rabbeinu Simcha Kohen de Dvinsk. Quoi, un bon Marocain celui-là. Dvinsk.
Du Nord.
Reb Meir Simcha Kohen Midvinsk, Baal HaMeshech Chochma, il écrit comme ça, en 1917, incroyable. 1917, il vit les révolutions russes. Il habite là-bas. Et il dit comme ça, dans la paracha de Vaera, donc pas cette semaine, la semaine prochaine. Paracha bien connue de certains. Il y a un verset. C'est la paracha de son fils, la paracha de Satan. Maintenant, il y a un verset. Je ne sais pas si c'est sur ça que vous allez parler. Il y a marqué que Dieu, il a ordonné... À qui de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte? Alors, il dit à Moshe, mais que Moshe doit aller ordonner à qui? Vayetzavem el Bnei Israël vel Paro melech Mitzrayim leotzi et Bnei Israël meheretz Mitzrayim.
Pourquoi les Bnei Israël?
C'est bizarre. Que tu donnes l'ordre à Pharaon de libérer les Juifs, je comprends. Mais là, Vayetzavem et Bnei Israël vel Paro.
Qui est l'adhésion du peuple?
Mais non, mais pourquoi il y a besoin d'ordonner au Bnei Israël, Léotzi et Bnei Israël? La tête!
Pour convaincre.
Non, mais les convaincre de quoi? De sortir?
Oui.
Dis la tête!
Les Bnei Israël, ils avaient.
Si on parle au Bnei Israël, intuitivement, je me dirais, Vayet Saver, la tête, mais Eret Mitzrayim. Parce qu'il faut les convaincre, parce que peut-être ils étaient bien, j'entends. Mais c'est la tête. Là, on te dit, Vayet Saver, el Bnei Israël, Léotzi et Bnei Israël. De les faire sortir, comme si, et on dit, Bnei Israël, Véparo. C'est-à-dire que, et Bnei Israël et Pharaon, ils ont une mainmise sur les Bnei Israël, et il faut leur ordonner de enlever cette mainmise et de les faire sortir.
Parce qu'ils avaient des Juifs comme esclaves chez eux.
Nous dit le Meshech Chochma, parce que, juste après ça, un truc très bizarre, il y a un chapitre qui a l'air out of the blue, où on te fait la généalogie de la famille de Réhouven, Shimon, Lévi pour arriver à Moshe. Ron, très belle. Réhouven, on a tous les enfants de Réhouven, de Shimon et de Lévi, on arrive à Moshe. Alors Rashi, il dit ce qu'il dit. Mais Meshech Chochma, il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça vient faire là? On connaît déjà les familles d'Israël, on nous a déjà raconté ça. Pourquoi est-ce que maintenant? Parce que, voilà, nous dit le Meshech Chochma, les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi, elles n'étaient pas esclaves. Mais c'était elles qui esclavageaient les autres. Lama, c'est les trois plus grands, c'est les aînés, Réhouven, Shimon, Lévi. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, chez Yosef, qui c'est qui a pris le contrôle, tu sais, des ministères? Réhouven, Shimon et Lévi.
Et Yehuda?
Non, Yehuda, il était avec le peuple juif. Tu sais pourquoi? Parce que Yehuda, tout le monde le tenait pour responsable de ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est lui qui était responsable. De la vente de Yosef, au final, c'est lui qui a tout géré. Donc, si tu veux, il a eu une Yerida de Madriga.
Mais
ça merde, Yosef, il a dit c'est Akadosh Baruch Hu. Et les mecs, quand ils sont arrivés, ils ont dit top, les gars, laissez-nous gérer. Et donc, pendant les premières années avec Yosef, Réhouven, Shimon et Lévi se sont installés en poste clé. Après, ils ont mis leurs enfants et leurs petits-enfants. Et puis, une fois que l'esclavage a commencé, les Égyptiens qui voulaient mettre le peuple juif en esclavage. Vous ne croyez pas que c'était plus facile pour eux d'avoir des juifs sur qui s'appuyer, des contremaîtres, des capots?
Mais, il y a une contre-fondie dans ma chambre, c'est que dans ma bracha,
La corde pour les poulets séparés, Réhouven, Simon et Lévi.
Alors, ce qui veut dire.
C'est le sort de divin.
C'est vrai.
Alors, ça veut dire qu'il y a trois chevatines, vous parlez, Réhouven,
Simon et Lévi, ouais.
Qui représentaient les 4/5 de la population de.
Non, pourquoi les 4/5?
Ah, mais pas c'est les 4/5 qui sont restés en Égypte.
Non. J'ai pas dit qu'il y a que de chez eux qui sont restés. La preuve, c'est que.
Ils sont restés pourquoi?
Non, mais. Deux secondes. La preuve, c'est qu'il y a des gens de Shimon, de Lévi et de Réhouven qui sont sortis d'Égypte. Bah, on voit après dans le décompte des tribus, ils sont là. Ils sont là et puis il y a des gens. Donc non, ils sont là. Mais c'est eux qui, pendant l'esclavage, dominaient les autres juifs. Après, il y a eu de toute façon un moment où tous les juifs ont été libérés de l'esclavage avant la sortie d'Égypte. Donc, ça y est, ils n'avaient plus la main mise. Et donc après, on a pu sortir. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette dimension qu'il y avait déjà à l'époque, une séparation en tribus, ben on l'a vécu dans notre chair, on l'a vécu dans le bien, quand on est sorti d'Égypte avec les Machane Israël et l'ouverture de la mer Rouge en douze canaux, mais on l'a vécu aussi caché, quand on a vu qu'il y avait des tribus, qu'il y avait des privilèges par rapport à d'autres
donc
tribus.
On est sorti chacun séparément.
Oui. Oui.
Chacun son drapeau,
sa famille, machin, machin. Mais ça n'empêche pas qu'on était à Israël. C'est ça? Et voilà ça. Et oui, on a quelque chose à apporter en tant que chacun. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les différences entre Ashkenaz, Polonais, Yéménites, Marocains, Tunisiens, Edotamizrah, est-ce que c'est en train de recréer les tribus? Je sais pas, peut-être.
Et c'était aussi Réhouven, Gad et la demi-tribu de la chasse qui sont les premiers ont décidé de s'installer là où ils sont installés.
C'est la demi-tribu de Ménaché. Réhouven, Gad et Ménaché qui restent de l'autre côté du Jourdain. Mais on va pas tout mélanger parce que sinon on n'y arrivera pas. Tom, alors, donc oui, il y a une importance à chaque tribu, mais il y a aussi une importance au peuple. D'accord? C'est pas facile, mais il y a des autres. Apenimim ve'achitzonim kol tzivyonehem shel ha'argasha ha'limudim ha'minagim ve'hadrachot shekol echad mehem bimkomo u'mosif tikun or ve'chayim matim im elech ha'nefesh ha'shiftit u'bone et olamo. Les minagim de chacun sont importants. On n'annule pas des minagim.
Les rabbinim, ils disent qu'il faut conserver les minagim.
Il faut conserver les minagim.
Donc, on est obligé de garder deux shulchan aruch, un sfarad, un.
D'abord, il y en a beaucoup plus que deux. D'abord.
Ah bon, j'ai bien simplifié.
Non, c'est ça. Non, aujourd'hui, dans les faits, il y a le shulchan aruch que personne ne suit. Il y a le réma. Qu'une partie des Ashkenazim suivent, et puis après, on suit beaucoup plus les gens qui sont venus après, qui sont Cholkim, Arbe Pa'amim. Par exemple, tu dis le Rav Odi Yosef, il a dit moi je suis tout le temps le Shulchan Aruch, sauf que c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où il ne suit pas le Shulchan Aruch. Et donc il y a plein de gens qui suivent le Rav Odia, il y a plein de gens qui vont suivre le Chaya Adam, il y a plein de gens qui vont suivre Rabbi Shalom Essas, il y a plein de gens qui vont suivre le Mishnah Brura, il y a plein de gens. On n'a même pas parlé des Thémanim dans tout ça. Suivre le Rambam. C'est-à-dire. Donc en fait, chacun il a son minag. Mais c'est Besséder, c'est Tov. Et le piyout, comme si que chez les Ashkenazim il n'y a pas, mais chez les Sfaradim il y a. Vous croyez qu'il n'a pas son importance? Je me suis rendu compte cette année. Cette année, je me suis rendu compte parce que dans ma communauté, on se divise à Rosh Hashanah et Kippour, parce que les gens ils veulent garder voilà, leurs airs et tout. Et moi, je fais des mix entre les deux. Et la première fois que j'ai fait attention à ça, parce que je savais que c'était des tefilotes différentes à Rosh Hashanah et Kippour. Mais en fait, je me rends compte que tous les piyoutim que les Sfaradim y chantent et que nous, on ne chante pas, ils sont, oui, marqués dans notre marzor. Ils sont marqués. Seulement, on ne les lit pas. C'est-à-dire que, en fait, les Sfaradim, ils disent quelque chose qui fait partie intégrante de ce que moi j'aurais dû dire aussi.
Mis l'accent sur une chose.
Mais on n'a pas mis l'accent. Donc c'est très important qu'eux ils mettent l'accent sur ça. Moi je mets l'accent sur autre chose. Et donc chacun il doit avoir sa place. C'est très important. הנה, והוא לפעמים מאחר וסותר בניין בהיותו מלופף בסדרים שונים שאינם מעניינו. אמנם, כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים, ואם הנועם והסידור נתמעט ומרירות ואיסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו. בכל זה, אף על פי שמיצר ומימר לי דודי לי, ובן שדי ילין. דילו רב קוק, toute la spécificité de chacun, elle ne peut pas être celle qu'on met en avant. Elle est importante, mais ce qui doit être mis en avant, c'est Aklal. Donc oui, tu gardes tes minagim, bien sûr, mais tu ne fais pas 12 drapeaux. Tu fais un seul drapeau.
C'est ça que vous dites. C'est le klal. Le klal, c'est une réunion. Le klal, c'est un ensemble. À partir du moment où il y a des minagim qui viennent là-dessus, une division, il n'y a plus ce...
Si, je donne un exemple où on a réussi. Je donne un exemple où on a réussi à faire qu'il y a klal, et à l'intérieur, il y a prat.
Les idées même de notre existence ici, elles sont très divisées dans le peuple.
Il n'y a pas de problème. Mais il y a un exemple qui montre que ça peut se faire. Je te donne un exemple. Il y en a plein, hein. Mais un exemple. Tous les juifs peuvent se souhaiter ensemble Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et c'est le même Shabbat Shalom. Même s'il y en a qui disent dit Shabbat, c'est l'autre qui dit Good Shabbat, c'est l'autre qui dit Shabbat Shalom, et l'autre qui dit Bon Shabbat. Shabbat Shalom. Et après, tu rentres avec ce Shabbat Shalom Klali, parce que c'est Shabbat, tu rentres dans les maisons, et là, ce Shabbat, qui est le même, il prend une couleur différente. Et pour certains, il prend la couleur du gefilte fish, et l'autre, il prend la couleur du poisson marocain, et l'autre, il va prendre du thé à la fin, et l'autre, il va pas prendre, il va prendre du café, et l'autre, il va pas prendre parce qu'on peut pas faire du thé pendant le Shabbat, et l'autre, il va prendre du couscous, et l'autre... C'est le même Shabbat, mais il a une couleur spécifique. Mais il y a le klal. J'aurais pas fait mon couscous si on avait été mardi.
Exactement.
C'est Shabbat.
C'est ça qui a gardé les juifs.
D'accord. Donc il y a quand même cette dimension de klal. J'ai pas de problème que le menu de Yom HaAtzmaout il soit différent. Que je machloket entre Ashkenazim et Sfaradim. Est-ce que sur le mangal on met d'abord les pargiot ou on met d'abord les merguez? Là on aura. Bon. Elou ve elou. Mais à écart, il y a le drapeau d'Israël derrière. Donc il y a le klal qui est mechaber et aprati. Ou mitor ha'achdut abelula amelea irbuv vechisron sidur yatsa la'or tochen chayim metukan mesudar sheigale veyirae behofaat or chayim shel geula veyishua veYisrael yashuv al mechono vekoach shevatav yashuv elav beachdut harmonit. Oui, on va revenir à la dimension tribale, mais elle sera harmonieuse. Lorsque le Rav Kook a créé le grand rabbinat d'Israël, il a compris qu'il ne pouvait pas être le seul à la tête du grand rabbinat d'Israël. Qu'il ne pouvait pas être le seul à la tête du grand rabbinat. Il a été chercher un rabbin séfarade. Alors c'était qui? Parce qu'on connaît le Rav Kook. Mais c'était qui le grand rabbin séfarade, le premier? Non, le Rav Uziel, c'est le premier grand rabbin d'Israël une fois qu'il y a eu l'État d'Israël. Mais la Rabbanout, elle a été créée avant.
La Getz?
Non, ou plus tard. Puis il n'était pas grand rabbin d'Israël, le Rav Getz.
Hein?
Il vient de Grèce. Ouais. Et il y a même un cours du Rav Etan Fison qui s'appelle De la Grèce à la Grâce. Sur le Rav. Sur le Rav Yaakov Meir. Rav Yaakov Meir, Agaon, Rav Yaakov Meir, c'était lui le premier grand rabbin d'Israël séfarade. C'est vrai? Et c'est même lui qui a été chercher un petit jeune pour le faire devenir le mankal, le responsable d'un projet dont personne ne croyait, la résurrection de la langue hébraïque. C'est le Rav Yaakov Meir qui a embauché Eliezer Ben Yehuda.
Il y avait un article il n'y a pas longtemps. Je me rappelle, j'ai lu ça.
Donc un Rav Yaakov Meir, je vous invite à aller voir mon cours sur le Rav Yaakov Meir, vous marquez sur YouTube Rav Etan Fison, Rav Yaakov Meir, et vous aurez le cours d'une heure sur qui c'était Rav Yaakov Meir Arishon Letir. Bekitsour ve'od ta'avorna atzon al yede mona u'misbeach Hashem a'arus yibane odapa al yede shnem asar avani. Et notre Misbéach, le Beth Amikdash, qui est pour l'instant détruit, on le reconstruira de nouveau avec 12 pierres, les 12 tribus. Keshanim, Keshnem Asar Shifte Ben Yaakov, Asher Ayat Var Hashem Elav, les morts, Israël Yeshemecha. C'est-à-dire quand Yaakov il a créé son Misbéach de 12 pierres pour que Dieu lui donne son nouveau nom, tu seras maintenant Israël. Oui, mais c'est formé des 12 tribus. על ידי אליהו מלאך הברית אשר מאז נקרא על ידי קנאתו השם הוא האלוהים הולך הוא ועובד עבודת השלום להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם incroyable אפילו כי דיסקווה quand on dit que אליהו il משיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם c'est le ramener à leur tribu. אליהו הנביא, un des trucs qu'il va faire c'est de dire sache que toi tu viens de Hachem. Et toi, tu viens de Zvouloun. Et toi, tu viens de Naphtali. C'est ça son boulot à Eliyahu.
Je ne sais pas à quoi ça peut aboutir, ce truc-là. Quelle importance qu'il y a que je sois d'une tribu ou de l'autre.
Non, entre les deux.
On verra. Je ne peux pas te dire. On verra bien. C'est vrai?
On n'a pas connu tout ça.
On a 3000 ans
d'histoire.
Aliede or raze Torah a Elyonim a oler veshotev beKnesset Israel umitpalesh bechol ma'avadea askanota safruyotea tikvotea va'avodotea amitraim betzurot shonot mikodesh umichol mibinyan vegam meirus. C'est-à-dire qu'il va nous ramener chacun notre tribu, on aura donc chacun notre pierre à apporter à l'édifice, mais ça sera le même édifice. C'est-à-dire, c'est comme tu fais un truc de Lego, et chaque participant, tu lui donnes des blocs de Lego d'une couleur différente. Mais il doit faire une tour. La tour, elle aura plein de couleurs. Mais tu comprendras que chaque couleur, elle est importante. Si tu l'enlèves, il n'y a plus la tour. C'est ça? Lemala, lemala, mechug, ekaram, ekaratam, tzera, shel kol hapoalim vaovdim atzmam, vegavoa arbe yoter mikol matroteem metzumtzamot. Si je prends que mes pierres, mes blocs bleus, bah je ferai une tour beaucoup moins grande que si je me mets avec tous les autres. Pas chou. רק בעצת השם אשר יעץ לתת לעמו אחרית ותקווה באחרית הימים תתבוננו בבינה. Le but du jeu, c'est de reconstruire la grandeur du peuple. Chazak, Shabbat Shalom. Alors on reste ici parce que mes dames ne sont pas là. Maintenant tu vas faire?
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Tu vois, par exemple, ça.